Lizzie présente Ce que tu as fait de moi, de Karine Gébel. Lu par Vincent Schmitt.
Elila Tamazit.
Prologue. Regarde. Regarde bien. Tu n'étais pas prêt à me rencontrer. Mais qui l'est vraiment? Qui peut se croire assez solide pour m'affronter? Moi, qui t'ai rendu vivant. Douloureusement vivant. Qui ai brûlé tes déguisements pour te mettre à nu, avant de t'écorcher, jusqu'à la main. Tes yeux ne voient plus que moi, plus qu'elle. Ton cœur ne bat plus que pour moi, pour elle. Ton instinct te guide inexorablement vers moi, vers elle. Ta voix n'est plus qu'un requiem, pour moi, pour elle. Requiem. Regarde. Regarde bien ce que tu es devenu. Tu n'étais pas prêt, sans doute, à vivre aussi fort, à avoir aussi mal, prêt à perdre tes certitudes, ton équilibre et ta raison. Prêt à oublier qui tu étais et qui tu comptais devenir. Prêt à mourir pour moi, pour elle, à tuer pour moi, pour elle. Mais désormais, tu sais que la mort n'est rien quand on a goûté à mes délices et mes supplices. Quand on a succombé à mon exquis venin. Il a coulé dans tes veines jusqu'à te rendre fou. Pourtant, tu en veux encore. Tu en veux toujours plus. Bientôt, il ne te restera plus rien, sauf l'empreinte gigantesque que j'ai laissée en toi. Ce brasier qui te consumera entièrement. Parce que tu n'as pas su me vivre, me résister, me vaincre. Parce que tu as tout sacrifié pour moi. Pour elle. Ta voix n'est plus qu'un long et pathétique requiem. Un requiem que j'ai composé pour toi. Pour elle. Requiem. Regarde. Regarde bien ce que j'ai fait de toi.
Chaque cœur chante une chanson inachevée, jusqu'à ce qu'un autre cœur la chuchote en retour. Platon. Chapitre 1. En arrivant dans les locaux de la DDSP de L, le commissaire divisionnaire Jaubert eut l'impression de pénétrer dans une église par un jour d'enterrement. Le silence frappait, écrasant. Les regards meurtris fuyaient à son approche. Il surprit même quelques larmes sur les joues d'un jeune brigadier. Flanqué du commandant de la porte, son adjoint, et de deux agents de son équipe, Jaubert se laissa guider dans les interminables couloirs par un gardien de la paix qui avait l'air aussi choqué que ses collègues. Aucun doute, une tragédie venait de marquer ces lieux à jamais. Lorsque le portable de Jaubert avait sonné vers 23h30, il s'apprêtait à partir en escapade avec une femme qui n'était pas la sienne. Petite fugue en Normandie, soigneusement préparée depuis des semaines, afin que Madame Jaubert ne se doute de rien. Le commissaire de l'inspection générale de la police nationale avait soupiré, négocié et même pesté, mais n'avait pu se soustraire à son devoir. L'affaire était trop importante pour être confiée à l'un de ses subordonnés. On avait besoin de lui pour faire la lumière sur ce qui s'était passé ici. Il avait donc appelé de la porte afin qu'il se rejoigne sur les lieux du drame avant de prévenir Clotilde que leur virée normande était reportée sine die. À son tour, elle avait soupiré, puis râlé, et Jaubert avait dû lui promettre que ce n'était que partie remise. Il s'entretint d'abord un moment avec ses collègues de la brigade criminelle qui avaient procédé aux premières constatations, interrogé les témoins puis placé les suspects en garde à vue. Il monta ensuite au dernier étage pour y rencontrer le commissaire divisionnaire Bertrand Germain qui dirigeait d'une main de fer la DDSP de L. Proche de la retraite, le directeur semblait avoir été frappé par la foudre. Un peu hébété, il fit un rapide topo de la situation à son collègue de l'IGPN. Il butait sur les mots, ayant soudain perdu son éloquence et sans aucun doute ses certitudes. Comment une telle horreur avait-elle pu se produire ici? Joubert et ses adjoints redescendirent alors d'un étage et bifurquèrent dans un nouveau couloir pour arriver devant une porte. Un planton qui montait la garde les toisa avec mépris. Depuis qu'il avait intégré la police des polices, qu'il était devenu un « bœuf carotte », le divisionnaire avait pris l'habitude de ses regards hostiles. Il pénétra dans la pièce, qui devait mesurer une quinzaine de mètres carrés et dont les murs étaient d'un blanc fatigué par les années. Un autre flic y était enfermé. Le commandant divisionnaire, Richard Méninville, lui tournait le dos. Posté devant la fenêtre armée de barreaux en acier, comme un prélude à la cellule carcérale qui l'attendait peut-être. « Bonsoir, commandant, » commença Joubert. Richard Méninville fit lentement volte-face et Joubert découvrit son visage tuméfié. Un masque de douleur au milieu duquel étincelait son regard de fauve. « Commissaire Joubert, IGPN, et voici le gardien Dutheil. Asseyons-nous, s'il vous plaît. » Méninville se laissa tomber sur une chaise. Une table blanche en faux bois séparait les deux hommes. Joubert y posa un calepin et un stylo, tandis que le gardien Dutheil, jeune femme d'une trentaine d'années, allumait son ordinateur portable. Elle adressa un signe de tête à son chef, lui indiquant qu'elle était prête à consigner les propos du suspect. Le divisionnaire dévisagea son collègue de longues secondes. Richard Méninville ne semblait pas inquiet ni anxieux, seulement désespéré. Racontez-moi ce qui s'est passé ce soir, reprit Joubert. Méninville ne répondit pas, fixant ses mains posées à plat sur la table. D'habitude, c'était lui qui cuisinait les prévenus dans cette même salle. Joubert se souvenait de l'avoir croisé des années auparavant. Méninville faisait partie de ces flics efficaces et irréprochables, connus et respectés de tous, admirés même. Il avait débuté au 36 alors qu'il n'était que lieutenant, puis capitaine. Excellent état de service, marqué par un acte héroïque en début de carrière. En prenant du galon, il avait rejoint la DDSP de L pour y assurer le commandement de la brigade des stupéfiants et retourné par la même occasion non loin de ses terres natales. « Je ne suis pas là pour vous juger, » rappela Joubert, « juste pour vous écouter. Je voudrais seulement comprendre. » « Comprendre ?» répéta Méninville avec un sourire d'une infinie tristesse. Le son de sa voix, enfin. « Oui, comprendre, » insista le commissaire. « Vous ne pouvez pas comprendre, » fit Méninville dans un mouvement de tête. « C'est une trop longue histoire. » À cet instant, le divisionnaire Joubert ne connaissait que l'épilogue de cette histoire qu'il pressentait compliquée à souhait. Une de celles qu'il aimait tant à démêler. À cet instant, il avait oublié sa maîtresse et son séjour raté en Normandie. Il ne voulait plus qu'une chose, une seule, savoir ce qui avait conduit le patron des stupes à sombrer ainsi. « J'ai tout mon temps, commandant. Toute la nuit, s'il le faut. »
Deux portes plus loin, salle d'interrogatoire numéro 2. Le commandant de la porte était adossé contre un mur, face au lieutenant Laetitia Graminski, ratatinée sur sa chaise. Au creux de ses mains fines, un gobelet de café déjà froid, qu'elle fixait comme un gouffre, dans lequel elle aurait aimé s'abîmer. Un jeune brigadier attendait que l'échange commence, les mains au-dessus du clavier de son PC. De la porte observa Laetitia un instant. Il la trouva jolie, malgré son visage marqué et la suture adhésive qui masquait une longue et fine plaie sur sa joue gauche. Elle portait un t-shirt trop grand pour elle, sans doute prêté par un collègue. Un chemisier déchiré et taché de sang était posé sur une petite table dans un coin de la pièce. « Je vous écoute, lieutenant, » encouragea le commandant. « Que voulez-vous que je vous dise ?» soupira la jeune femme. Tout ce qui s'est passé depuis le début. Ça risque d'être long.
Pas de problème. J'ai tout mon temps. Toute la nuit s'il le faut.